Discours de la servitude volontaire. Étienne de la Boétie, quatrième partie. J'ai plaisir à me rappeler un propos que tint jadis l'un des favoris de Xerxès, le grand roi des Persans, et de Lacédémoniens. Quand Xerxès faisait les préparatifs de sa grande armée pour aller conquérir la Grèce, il envoya ses ambassadeurs d'une cité grecque à l'autre demander de l'eau et de la terre. C'était la façon que les Persans avaient de sommer les villes de se rendre à eux. Ni à Athènes ni à Sparte, il n'en envoya, parce que ceux que Darius son père y avait envoyés avaient été jetés par les Athéniens et les Spartiates, les uns dans les fossés, les autres dans les puits, où ils n'avaient qu'à prendre hardiment, leur aurait-on dit, de l'eau et de la terre pour les porter à leur prince. Ces gens ne pouvaient souffrir que de la moindre parole seulement, on toucha à leur liberté. Pour avoir agi ainsi, les Spartiates s'aperçurent qu'ils avaient encouru la haine des dieux, particulièrement de Taltibi, le dieu des héros. Ils eurent l'idée d'envoyer à Xerxès, pour les apaiser, deux de leurs citoyens, pour se présenter à lui, afin qu'il en usât avec eux à sa guise, et se paya ainsi pour les ambassadeurs qu'il avait tués à son père. Deux Spartiates, l'un nommé Sperte et l'autre Bulis, s'offrirent de leur plein gré pour aller faire ce paiement. De fait, ils y allèrent, et en chemin, ils arrivèrent au palais d'un Persan qu'on nommait Indarne, qui était lieutenant du roi pour toutes les villes d'Asie qui sont sur les côtes de la mer. Il les accueillit fort honorablement, leur fit grande chère, et au fil de la conversation, un propos amenant l'autre, il leur demanda pourquoi ils refusaient tant l'amitié du roi. « Voyez, dit-il, Spartiate, apprenez par mon exemple comment le roi sait honorer ceux qui le valent. Et pensez que si vous lui obéissiez, il en userait de même avec vous. Si vous étiez ses sujets et qu'il eût fait votre connaissance, ni l'un ni l'autre, vous ne manqueriez d'être seigneur d'une ville de Grèce. En ceci, Indarne, tu ne saurais nous donner un bon conseil, dirent les Lacédémoniens, parce que le bien que tu nous promets, tu l'as expérimenté. Mais celui dont nous jouissons, tu ne sais ce que c'est. Tu as éprouvé la faveur du roi, mais de la liberté, de son goût, de sa douceur, tu ne sais rien. Or, si tu en avais tâté, toi-même, tu nous conseillerais de la défendre, non pas avec la lance et l'écu, mais avec les dents et les ongles. Seul le Spartiate disait ce qu'il fallait dire, mais certes, et l'un et l'autre, parlaient selon l'éducation qu'ils avaient reçue. Car il était impossible que le Persan regrettât la liberté, ne l'ayant jamais connue, ni que le Lacédémonien endurât la sujétion, ayant goûté à la liberté. Caton d'Utique, étant encore enfant et sous la férule, allait et venait souvent chez Sylla, le dictateur, tant parce que d'après son rang et sa famille, on ne lui refusait jamais l'entrée, que parce qu'ils étaient aussi proches parents. Il y avait toujours avec lui son précepteur quand il y allait, comme c'est l'usage chez les enfants de bonne maison. Il s'aperçut que dans l'hôtel de Sylla, en sa présence, ou par son commandement, on emprisonnait les uns, on condamnait les autres. L'un était banni, l'autre étranglé, l'un demandait la confiscation des biens d'un citoyen, l'autre sa tête. En somme, tout allait non comme chez un officier de ville, mais comme chez un tyran du peuple, et c'était non par un parquet de justice, mais un atelier de tyrannie. Là-dessus, le jeune garçon dit alors à son précepteur, « Que ne me donnez-vous un poignard? Je le cacherai sous ma robe. J'entre souvent dans la chambre de Sylla avant qu'il ne soit levé. J'ai le bras assez fort pour en débarrasser la ville. » Voilà certes une parole vraiment propre à Caton. C'était pour ce personnage un commencement digne de sa mort. Et néanmoins, à supposer qu'on ne dise ni son nom, ni son pays, que l'on compte seulement le fait tel qu'il est, la chose même parlera, et l'on jugera avec toute chance de tomber juste qu'il était romain, né à Rome, et lorsqu'elle était une ville libre. À quelle fin tout ce propos? Non pas certes que j'estime que le pays et le terroir y changent quelque chose, car en toute contrée, en toute ère, est amère la sujétion et plaisante la liberté. Mais parce que je suis d'avis qu'on ait pitié de ceux qui, en naissant, se sont trouvés le joug au col, ou bien qu'on les excuse, ou bien qu'on leur pardonne, si n'ayant vu que l'ombre de la liberté, et n'en étant point avertis, ils ne s'aperçoivent point du mal qui est le leur en tant qu'esclaves. S'il y avait quelque pays, comme dit Homère des Cimériens, où le soleil se montre autrement qu'à nous, et où, après les avoir éclairés 6 mois successifs, il les laisse sommeillant dans l'obscurité, sans venir les revoir durant l'autre demi-année. Alors de ceux qui naîtraient pendant cette longue nuit, qui s'étonnerait si, n'ayant pas entendu parler de la clarté, n'ayant point vu de jour, ils s'accoutumaient aux ténèbres où ils sont nés, sans désirer la lumière. On ne pleure jamais ce que l'on n'a jamais eu, et le regret ne vient jamais qu'après le plaisir. C'est toujours avec la connaissance du mal que revient le souvenir de la joie passée. La nature de l'homme est bien d'être libre et de vouloir l'être, mais aussi sa nature est telle que, naturellement, il prend le pli que son éducation lui donne. Disons donc ainsi que pour l'homme, paraissent naturelles toutes les choses dont il est nourri et auxquelles il est accoutumé. Mais ce qui seul est inné chez lui, c'est ce à quoi sa nature simple et non altérée l'appelle. Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Comme des plus braves courteaux qui, au commencement, mordent le frein et s'en jouent, et là où naguère il ruait contre la selle, il se pare maintenant dans les harnais, et tout fier se rengorge sous le harnachement. Ils disent qu'ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont ainsi vécu, ils pensent qu'ils sont obligés d'endurer le mal, s'en convaincre par des exemples, et fondent eux-mêmes, sur la longue durée, la domination de ceux qui les tyrannisent. Mais au vrai, les années ne donnent jamais le droit de mal faire, au contraire, elles aggravent l'injustice. Il s'en trouve toujours cependant quelques-uns de meilleure naissance que les autres, qui sentent le poids du joug et ne peuvent s'empêcher de le secouer, qui ne s'accommodent jamais de la sujétion et qui sans cesse, comme Ulysse, qui par mer et par terre cherchait toujours à voir la fumée de son foyer, ne peuvent manquer de penser à leurs privilèges naturels, ni de se souvenir de leurs prédécesseurs ainsi que de leur premier état. Ce sont souvent ceux-là qui, ayant l'entendement net et l'esprit clairvoyant, ne se contentent pas comme la populace grossière de regarder ce qui est devant leurs pieds, mais s'inquiètent de ce qui est derrière et devant, et se remémorent de surcroît les choses passées pour juger de celles du temps à venir et pour mesurer les présentes. Ce sont ceux qui, ayant la tête d'eux-mêmes bien faite, l'ont encore polie par l'étude et le savoir, ceux-là quand bien même la liberté serait entièrement perdue et toute hors du monde, l'imaginent, et la sentent en leur esprit, et même la savourent, et la servitude n'est pas à leur goût, si adroitement qu'on la déguise. Le grand Turc s'est bien rendu compte de ce que les livres et la doctrine donnent plus que toute autre chose aux hommes, le bon sens et l'entendement de se reconnaître et de haïr la tyrannie. Je sais qu'il n'a en ces terres guère de gens savants, et qu'il n'en demande pas. Or, en général, le bon zèle et la propension de ceux qui ont gardé, malgré le temps, leur dévotion à la liberté, même s'ils sont nombreux, demeurent sans effet, parce qu'ils ne se connaissent pas mutuellement. La liberté leur est complètement ôtée sous le tyran, de faire, de parler et quasi de penser. Ils se retrouvent tous isolés en leur rêverie. Donc Momus, le dieu moqueur, n'était pas si excessif dans sa moquerie quand il regretta à propos de l'homme qu'avait fait Vulcain le fait qu'il ne lui ait pas mis une petite fenêtre au cœur, afin que par là, on pût voir ses pensées. On suppose que Brutus, Cassius et Cascus, lorsqu'ils entreprirent la libération de Rome, ou plutôt du monde entier, ne voulurent pas que Cicéron, ce grand défenseur du bien public, s'il en fut jamais, fût de la partie. Ils estimèrent son courage trop faible pour un fait si haut. Ils se fiaient bien à sa volonté, mais il n'était pas sûr de son courage. Et toutefois, si l'on veut interroger les faits du temps passé et les annales anciennes, de ceux qui, voyant leur pays mal dirigé et en de mauvaises mains, ont entrepris avec une intention bonne, entière et non feinte, de le délivrer, il s'en trouvera peu ou point qui n'en soit venu à bout, et peu de cas où la liberté pour advenir n'ait eu besoin de s'épauler elle-même. Harmodios, Aristogiton, Thrasybule, Brutus l'Ancien, Valérius et Dion, parce qu'ils avaient vertueusement pensé leur acte, l'exécutèrent avec succès. Dans de tels cas, au bon vouloir, jamais la chance ne fait défaut. Brutus le jeune et Cassius chassèrent bien la servitude avec succès, mais en ramenant la liberté, ils moururent, non pas misérablement, car quel blasphème ce serait que de dire qu'il y eut quoi que ce soit de misérable en ces gens-là, en leur vie ou en leur mort, mais certes au grand dommage, perpétuel malheur et entière ruine de la République, qui fut, semble-t-il, enterrée avec eux. Harmodios, Aristogiton, Thrasybule, Brutus l'Ancien, Valérius, Dion, tous ces personnages illustres sont connus pour avoir destitué des tyrans. Harmodios et Aristogiton assassinèrent Hipparque, tyran d'Athènes, en 514 avant Jésus-Christ. Thrasybule fit renverser les oligarques et rétablir la démocratie d'Athènes en 409. Puis en 402, Brutus l'Ancien et Valérius chassèrent les derniers Tarquins, et avec eux la royauté pour faire de Rome une république. Dion, enfin, destitua Denis, tyran de Syracuse, dont il a déjà été question précédemment dans le discours.
Ceasefire.
Ireland.
Freedom.
Freedom. Let's talk about freedom. Freedom! Let's talk about freedom. Freedom to choose, baby. Freedom to lose. Freedom to love who you want, baby. Freedom to love God above. God above, baby, come on! Talk about freedom. 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 Freedom, yeah! About peace, freedom to scream about peace, freedom in the European East, baby, not just the European East. I want some freedom to smoke some herb,
smoke some herb.
I want some freedom to do what I want,
do what I want, baby.
Freedom to cry,
freedom to cry, freedom to lie, freedom to lie,
freedom of love, baby,
love, baby, love, baby,
freedom of love.
God above, God above.